Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 21h en temps universel et à Lomé chez Fred Musa, 22h à Brazza chez Jessie B et 23h à Saint-Denis en France. Et le journal est présenté par Delphine Liou. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Claudie. À la une de l'actualité ce soir en Inde, Rahul Gandhi, nouvel homme fort de l'opposition parlementaire à Narendra Modi. Un poste influent laissé vacant pendant 10 ans, nous racontera notre correspondant Gombastin. En Russie, on n'avait pas vu ça depuis l'époque soviétique. Le procès pour espionnage d'un journaliste occidental. Il s'agit de l'Américain Evan Gershkovitch. Anissa El-Jabri a couvert la première journée de ce procès, qui se tient à huis clos. Et près d'un tiers des adultes dans le monde ne font pas assez d'exercice, c'est le constat alarmant de l'OMS. Conséquence de ces records d'inactivité, un risque accru de maladies chroniques. Un coup d'État est-il en préparation en Bolivie? C'est ce qu'affirme l'ancien président Evo Morales. Des militaires et des chats. Et les chars sont en position devant le siège du gouvernement dans la capitale, La Paz. Le président, Luis Arce, dénonce des mouvements irréguliers de l'armée et appelle au respect de la démocratie. Nous retrouverons notre correspondant en Bolivie en direct dans 2 heures. Il sera le principal opposant à Narendra Modi en Inde. Rahul Gandhi, l'héritier de la célèbre dynastie, a été nommé ce mercredi chef de l'opposition parlementaire. Un poste resté vacant depuis 10 ans. Son parti, le Parti du Congrès, est sorti renforcé des dernières élections et compte donc bien peser face à la coalition du Premier ministre, Gombastin.
Il faut un minimum de 56 députés au Parlement, à un parti, pour prétendre au poste de leader de l'opposition. Et aucun parti d'opposition n'avait atteint ce nombre depuis l'élection triomphale de Narendra Modi en 2014. Le Parti du Congrès dispose désormais d'une 100aine de sièges et a donc pu faire élire Rahul Gandhi. Il s'agit d'un véritable poste gouvernemental qui donne voix au chapitre sur d'importantes nominations dans les agences de l'État. Le leader de l'opposition est aussi le successeur logique du Premier ministre si le gouvernement est renversé. Rahul Gandhi s'est adressé au président du Parlement, un membre du BJP de Narendra Modi, lui aussi fraîchement élu.
Bien sûr, le gouvernement a le pouvoir politique, mais l'opposition représente elle aussi la voix du peuple indien. Et lors de ces élections, les Indiens ont affirmé qu'ils voulaient une opposition renforcée afin de défendre la constitution de ce pays.
Malgré quelques dissensions, le choix de Rahul Gandhi s'est imposé au sein de la coalition d'opposition. Autrefois impopulaire auprès des Indiens, l'héritier de la dynastie Nehru Gandhi a su faire évoluer son image. L'organisation de 2 grandes marches pour l'harmonie à travers le pays et son élection dans l'Uttar Pradesh, un état considéré comme un bastion du BJP, y a contribué. Gombastin, Bangalore, RFI.
En France, le premier tour des législatives n'est même pas passé que se pose déjà avec insistance la question des désistements pour faire barrage à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, demande aux électeurs de gauche de ne pas faire la bêtise, je cite, de voter pour le Rassemblement national. De son côté, le centriste François Bayrou affirme qu'il ne votera ni pour un candidat du RN, ni pour un candidat de LFI au second tour. La question du futur locataire de Matignon continue aussi de faire débat. L'ancien président de la République, François Hollande, candidat à la députation, plaide en cas d'absence de majorité pour la nomination, je cite, d'une personnalité de consensus qui puisse, sur un programme minimal, faire avancer le pays. Fin de citation. Et puis au Kenya, le président fait marche arrière. William Ruto retire son budget 2024-2025, un projet qui prévoyait des hausses de taxes et qui avait généré manifestations et émeutes réprimées dans la violence. Au moins 23 personnes sont mortes, selon les organisations des droits humains. En Russie, le procès du journaliste américain Evan Gershkovitch a débuté ce mercredi à Yekaterinbourg dans l'Oural, la ville où il avait été arrêté le 30 mars 2023 alors qu'il était en reportage. Le correspondant du Wall Street Journal est accusé d'espionnage pour le compte de la CIA, accusation que lui, sa famille et son journal rejettent. Un procès qui a lieu à huis clos. Le reportage d'Anissa El-Jabri.
Dans son costume bleu, à l'allure presque militaire, le chef du parquet criminel a lâché à peine quelques mots à la presse à l'issue d'une première audience qui a duré une poignée d'heures.
Le tribunal de la région de Sverdlovsk a ouvert 5 affaires contre le citoyen américain Evan Gershkovitch. Il est surtout accusé d'avoir commis un crime en vertu de l'article 276 du Code pénal de la Fédération de Russie, à savoir l'espionnage. L'enquête préliminaire a été menée par le département des enquêtes du FSB de Russie.
Du contenu de cette enquête menée par les services de renseignement intérieur, on ne sait rien. La Russie n'a jamais étayé publiquement les accusations portées, tout ou presque, et du reste sous le sceau du secret. Les photos et les vidéos autorisées du journaliste ce mercredi, elles ont été acceptées à la condition stricte du silence total, interdit de même demander à Evan Gershkovitch debout dans une cage vitrée entourée de 2 policiers, tout simplement comment il va. La salle où il a été vu brièvement n'est pas celle où il comparaît. C'est un lieu secret, fermé au regard aussi. L'entrée spéciale par laquelle il est arrivé au siège du tribunal régional. Enfin, la durée du procès n'est pas connue, mais depuis 8 jours, la Russie fait monter la pression. Nouvelle déclaration à la mi-journée venue de sa diplomatie. Washington devrait sérieusement étudier les signaux de Moscou sur un échange de prisonniers. Evan Gershkovitch risque 20 ans de prison. Anis El-Jabri, Yekaterinbourg, RFI.
Une décision historique. La Cour d'appel de Paris vient de valider le mandat d'arrêt français visant Bachar el-Assad, l'ancien président, le président syrien. Pour la première fois, une juridiction nationale reconnaît que l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice n'est pas absolue. Le président syrien est accusé de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières perpétrées en août 2013. Sur place, en France, les victimes et les ONG françaises et syriennes, parties civiles dans ce dossier, applaudissent. L'extension de la guerre au Liban serait potentiellement apocalyptique. C'est l'avertissement lancé ce mercredi par l'ONU. Israël et le Hezbollah échangent en effet des tirs quasi quotidiens à la frontière avec le Liban. Plusieurs pays, l'Allemagne aujourd'hui, le Canada hier, appellent d'ailleurs leurs ressortissants à quitter le pays. Julian Assange a mis des personnes en danger en diffusant sans filtrage des milliers de documents confidentiels dans les années 2010. Déclaration du porte-parole ce mercredi du département d'État américain. Après la remise en liberté du fondateur de Wikileaks, Julian Assange est rentré ce mercredi dans son Australie natale. L'Australie qui a joué un rôle dans sa libération, comme l'a confié le Premier ministre Anthony Albanese.
Au cours des 2 dernières années, depuis notre entrée en fonction, mon gouvernement s'est engagé et a plaidé, y compris au niveau des dirigeants, pour résoudre ce problème. Nous avons utilisé tous les canaux appropriés et ce résultat est le fruit d'un travail minutieux, patient et déterminé dont je suis très fier. Ce travail a été complexe et réfléchi. C'est à cela que ressemble la défense des Australiens partout où ils se trouvent. Cela signifie qu'il faut faire le travail, obtenir des résultats et avoir la détermination de maintenir le cap. Et je suis très heureux qu'à cette occasion, nous ayons obtenu un résultat positif que, je pense, la grande majorité des Australiens souhaitaient voir se concrétiser. Et comme je l'ai dit, les opinions sur l'engagement et les activités de M. Assange peuvent diverger. Mais les Australiens seront heureux que cette saga ait pris fin et qu'il puisse retrouver sa famille.
On ne se bouge pas assez, selon l'Organisation mondiale de la santé. Près du tiers de la population adulte mondiale ne pratique pas suffisamment d'activité physique pour rester en bonne santé. C'est encore moins bien que le dernier pointage de 2016. Et puis on termine avec un mot de foot, avec la Belgique qui sera l'adversaire de l'équipe de France en 8e de finale. La surprise ce soir en Allemagne pour cette Euro de foot, c'est le Portugal qui s'est fait battre par la Géorgie 2-0. Portugal qui est pourtant l'un des favoris de ce tournoi. La Géorgie rejoint donc les 8e de finale, s'est qualifiée donc pour le tour suivant et rencontrera l'Espagne. Également qualifiée pour les huitièmes de finale, l'équipe de Turquie qui rencontrera, elle, l'Autriche. Et puis la Roumanie, elle, l'adversaire de la Roumanie sera les Pays-Bas. L'Angleterre, elle, rencontrera la Slovaquie. Tout ça, bien sûr, tous les détails dans Radio Foot International. Ce sera donc tout de suite après ce journal. Et puis dans une heure, vous retrouvez 24 heures en France avec Stéphane Genest. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.